Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
En République démocratique du Congo, les Congolais qui veulent émigrer au Canada peuvent désormais entreprendre leur démarche à partir de Kinshasa. La firme spécialisée en immigration francophone pour le Canada, dénommée Access Canada, vient de s'installer dans la capitale congolaise, ce qui permettra aux touristes, étudiants et travailleurs congolais désireux de se rendre au Canada de bénéficier rapidement des services d'immigration conformes aux normes requises. Faute des filières sérieuses, de nombreux Congolais ont été victimes d'arnaques sur Internet et voire même par des personnes interposées, donc des intermédiaires comme on les a appelés, des commissionnaires pour les autres. Comment cette firme va vraiment fonctionner sur le terrain et quels sont les critères d'éligibilité d'immigration retenus par Access Canada? Nous avons dans ce studio Alain Guerrero, président de l'Access Canada. Bonjour monsieur Alain.
Bonjour.
Alors on peut dire que c'est une réalité ou peut-être c'est une autre forme d'arnaque?
Non, on va dire que c'est une réalité. Je voudrais simplement corriger une petite chose de votre introduction. Nous sommes spécialisés en résidence permanente, c'est-à-dire que nous ne nous occupons pas des touristes, ni des étudiants, ni des travailleurs temporaires. Notre spécialité, c'est vraiment les personnes qui vont aller vivre au Canada comme des Canadiens. Ensuite, peut-être le petit point aussi que je voudrais corriger, c'est que les critères d'admissibilité ne sont pas ceux de notre firme, mais plutôt ceux des règlements en vigueur dans les lois du Québec et dans les lois du Canada. Donc ce sont des critères de sélection objectifs. Alors par rapport à la crédibilité, c'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup d'arnaques. Je pense que la première chose à faire remarquer, c'est que les candidats qui sont intéressés par l'immigration doivent avoir quand même un esprit critique. Ils ne doivent pas forcément aller vers les personnes qui vont leur faire des promesses, mais plutôt vers les personnes qui vont leur donner leur juste. Maintenant, au niveau canadien aussi, il existe des formes d'accréditation pour pouvoir travailler en matière d'immigration. Donc ça, c'est un point qui est important. Et la plupart, bon, pas la plupart, mais tous ces arnaqueurs n'ont pas ces accréditations. Alors, les premières accréditations, ce qu'il faut savoir au Canada, c'est qu'il y a trois types de personnes qui peuvent pratiquer dans le domaine. Vous avez les avocats, vous avez les notaires, et vous avez ce qu'on appelle les conseillers agréés, les consultants agréés en immigration. Et c'est à partir de ces trois on va dire ces trois professions, qui sont les trois régies par des ordres professionnels, que quelqu'un peut s'adresser en toute confiance à un intermédiaire en matière d'immigration.
Oui, ben alors aujourd'hui, c'est vrai, pour certains observateurs, ils pensent que la procédure aurait peut-être été la même avec celle des Américains qui organisent par exemple des loteries au lieu d'avoir une firme spécialisée uniquement pour l'immigration francophone au Canada. Pourquoi ne pas le faire via peut-être l'ambassade comme le font les Américains, c'est-à-dire au travers d'une loterie, et comme ça on donnerait la chance à tout le monde?
Bon, ça c'est un débat qui ne relève pas de notre firme. Nous travaillons avec ce que les parlementaires ont décidé pour le bien du pays en matière d'immigration. C'est un choix politique. Le Canada ne fait pas de loterie. Le Canada pratique une immigration sélective depuis maintenant des décennies. C'est dans un but un peu de, même principalement, de soutenir non seulement l'économie, mais aussi la pyramide démographique qui est au Canada malheureusement un petit peu non conforme à ce qu'elle devrait être pour le renouvellement de la population. Alors, ça, par exemple, au niveau de la loterie, il est bon de souligner que c'est souvent une source de confusion, parce qu'il y a beaucoup de emails qui circulent justement émis par des arnaqueurs qui laissent croire qu'il y a une loterie pour le Canada, alors qu'au Canada, il n'existe aucune loterie.
Aucune loterie.
Aucune.
Mais voilà, alors disons Access Canada a fonctionné donc dans plusieurs pays africains, notamment dans la partie ouest. Qu'est-ce qui a motivé votre arrivée dans la partie centre et notamment en RDC?
Bon, donc on va dire que c'est une planification logique pour le développement de notre entreprise, puisque nous sommes spécialisés en matière d'immigration francophone et que le Congo est maintenant le plus important pays francophone au monde. Donc il était normal que nous venions nous y installer. Notre firme maintenant a 14 ans d'existence. C'est une équipe de plus de 110 personnes maintenant qui est spécialisée. Nous ne travaillons sans aucun intermédiaire, donc c'est vraiment nos employés et notre supervision directe qui s'effectue partout. Et il était normal que nous arrivions ici à Kinshasa. C'était une planification que nous avions quand même, nous y avions pensé il y a longtemps, mais ça s'est fait seulement récemment.
Mais vous n'avez pas d'intermédiaire, mais Kinshasa n'est pas le seul RDC, donc ne couvre pas toute la République. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les jours à venir, vous serez obligé d'avoir des intermédiaires à travers le pays pour vous aider, parce que vous n'allez pas avoir des antennes de représentation à travers la RDC, et parce que la demande elle est très forte, ça il faudrait vraiment le dire.
Bon, dans tous les pays où nous sommes installés, on peut dire quand même qu'il y a une demande qui est forte. Toutefois, l'immigration ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des critères, de diplôme, des critères d'âge, des critères d'expérience. Il y a aussi une barrière financière parce qu'il y a des coûts. Il y a des coûts au niveau de nos honoraires, mais aussi au niveau des frais de traitement que prennent les services québécois et canadiens. Et il y a aussi évidemment une somme que nous appelons, que la loi appelle les frais de subsistance, et qui est une somme que le candidat doit avoir à son arrivée au Canada pour vivre les 3 ou les 6 premiers mois suivant son arrivée. Donc ces barrières font en sorte que à partir d'un moment où les critères sont connus par la population en général au niveau du bouche à oreille, la fréquentation de nos bureaux est relativement plus modeste que la demande réelle qui pourrait découler de la population. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que même si le pays est grand, même si le monde est vaste au niveau même au-delà du Congo, Nous avons il y a très longtemps décidé de ne pas prendre d'intermédiaire parce que c'est comme une perte.
Il y a toujours des risques.
Voilà, c'est comme une perte de contrôle dans un domaine qui est extrêmement délicat. Et comme nous sommes une firme accréditée, nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir quelqu'un qui émet de fausses représentations pour avoir des gens qui s'engagent, etc. C'est pas du tout notre objectif.
Oui, mais l'idéal serait de former vos propres intermédiaires. Je pense que ça pourrait diminuer un peu le risque, le nombre de risques.
Oui, bon, ça c'est une stratégie d'affaires, mais nous n'avons pas décidé de passer par ce biais-là pour le moment. Nous disons simplement que nous faisons les 12 000 premiers kilomètres dans le cas du Congo et nous laissons la clientèle congolaise faire la différence de kilomètres pour venir nous voir à Kinshasa.
On va poursuivre cette entretien.
Toutefois, oui. Je vais juste vous préciser que nous avons ce qu'on appelle un bureau virtuel sur Internet où nos candidats, c'est www.accescanadadirect.com, où les candidats du monde entier peuvent se connecter et avoir en ligne des conseils.
Alors, comment ça va se passer concrètement? Quelqu'un qui aimerait bien avoir une résidence permanente au Canada se présente à vos bureaux. Nous savons que c'est pas une mince affaire. Déjà, vous constituez un intermédiaire aussi pour ces messieurs. Au lieu qu'ils passent directement au niveau de l'ambassade, chercher à obtenir un visa d'établissement, mais passent par vous. Donc, vous constituez un intermédiaire. Ça demandera beaucoup de frais. Et ça, j'imagine. Et comment ça se passe concrètement? Quels sont les critères de sélection et quels sont les procédure à suivre?
Bon, la procédure à suivre, c'est de venir nous voir. La première chose que nous faisons, c'est de qualifier l'individu par rapport... La différence entre nous et une ambassade, c'est que nous regardons le profil du candidat par rapport aux 2 lois applicables et nous lui remettons un rapport écrit. L'immigration pour le Canada, ça fonctionne avec des critères pour lesquels il y a des points qui sont attribués. Et c'est un peu comme un examen. Vous avez un nombre de points maximal par critère, vous avez un seuil à atteindre. Est-ce que le candidat atteint ce seuil ou ne l'atteint pas? S'il atteint ce seuil, nous l'engageons dans la procédure officielle s'il le désire. S'il n'atteint pas ce seuil, on lui donne des conseils s'il y a une possibilité mathématique d'arriver à atteindre ce seuil. Et s'il y a évidemment il y a des candidats qui ne rencontrent pas du tout un potentiel au niveau du seuil à atteindre, et pour cela nous leur disons que ça sert à rien de dépenser de l'argent.
Donc là, jusque là, il n'a pas encore versé un rond au niveau de la firme.
Bon, nous avons des critères qui font en sorte que la personne est exclue automatiquement, et là elle a absolument rien à verser. La première des choses, c'est que une personne qui n'a pas de diplôme, il n'est pas nécessaire qu'elle vienne nous voir, parce que les critères.
Donc sans le diplôme, c'est-à-dire le baccalauréat.
Bon, un baccalauréat général ne suffit pas. Il faut soit un diplôme technique moindre qu'un baccalauréat, mais qui est un diplôme professionnel, donc qui donne accès à une profession, soit un diplôme supérieur, mais actuellement, il y a beaucoup de points qui sont attribués pour des professions dites techniques. Donc, par exemple, un cuisinier va avoir des chances s'il est diplômé, un électricien, une personne dans la réfrigération, etc. Donc, tous ces métiers même les plombiers, par exemple, tous ces...
Les infirmiers, le médecin...
Tout ce qui est relié au domaine médical, en général, c'est bon, parce que, comme dans tous les pays industrialisés, le Canada a une population vieillissante importante dont il faut s'occuper, donc tout ce qui est relié au domaine médical est fortement...
Voilà, on va revenir à vous pour continuer à avoir une idée sur la procédure. Nous avons des auditeurs, parce que le sujet a beaucoup d'intérêt pour eux. Nous avons d'abord Dr. Richard, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors, oui, monsieur Richard, vous voulez intervenir autour de ce sujet sur une firme canadienne qui s'installe en RDC. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, c'est que cette opération a une coloration de traite de noir. Pourquoi les Canadiens ne viendraient pas ici installer des entreprises au Canada, canadiennes ici, pour utiliser les mains valides et les cerveaux valides des Congolais ici sur place pour l'intérêt du Canada et des Congolais? Pourquoi prendre les Congolais et les amener là-bas? Et puis il n'y a pas de garantie de transfert d'argent, de retour, etc. Nous avons des coups de fil de ceux qui sont là-bas. Bah, ça c'est la traite des Noirs. Les Noirs sont partis développer les Amériques. Voilà comment les Amériques sont devenus. Et nous autres, demain, nous sommes restés comment? Moi je suis pour la création des entreprises canadiennes ici. Et nous on fait cette ponction des cerveaux valides, des mains valides pour le Canada. Et ils partent sans retour.
Voilà, docteur Richard, vous avez encore d'autres préoccupations?
Oui, d'autres préoccupations, c'est-à-dire il faut que on nous respecte aussi de ce côté. On ne nous respecte pas avec...
Oui, docteur Richard, une question de curiosité. Une question de curiosité.
Qui nous apprennent aussi à travailler pour nous développer. Nous sommes par exemple un pays de forêt. Le Canada traite la forêt pour produire le papier.
Voilà.
Alors, donc, des choses qu'on doit régler. Moi, j'ai suivi une formation avec les entrepreneurs canadiens qui nous ont promis même des crédits. Je suis transformateur de produits agroalimentaires, bio et dans la nutrition. Mais les crédits ne sont jamais arrivés.
Oui, ben, docteur Richard, ça ne me contenterait pas un jour d'envoyer vos enfants peut-être étudier à Rimouski, au Québec ou peut-être ailleurs?
Oui, mais tout ça, ils peuvent étudier au Congo. Si les Canadiens viennent améliorer ici le système d'enseignement et placent même leurs entreprises ici, pourquoi faire des ponctions des populations?
Merci docteur Richard pour votre intervention. Alors nous avons également Boniface qui nous appelle depuis Matete, à Kinshasa. Boniface, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, je vous écoute.
Voilà, vous êtes sur Okapi et quelle est votre préoccupation par rapport à cette firme canadienne qui va s'installer, qui s'est installée, voilà, en RDC pour aider les Congolais désirés d'émigrer au Canada?
Oui, moi je voulais juste savoir un peu quel est son intérêt dans toutes ces démarches qu'il va faire pour les Congolais. Quel est son intérêt précis? Voilà.
Voilà, merci beaucoup Boniface, et nous avons dans ce studio Alain Guerrero, président de l'Access Canada, qui gère ce projet. Alors, monsieur Alain, vous avez suivi les auditeurs.
Tout à fait.
Le premier, docteur Richard à Kinshasa, qui normalement qualifie cette opération de traite des Noirs. Et puis le deuxième aimerait bien avoir une idée sur l'intérêt que vous tirerez de cette opération.
Alors premièrement, je trouve que le terme traite des Noirs est un petit peu... non seulement exagéré, mais aussi dépassé dans le cadre de la mondialisation d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'on voit aux États-Unis le démontre clairement. Maintenant, pour ce qui est de...
Monsieur Boniface, avec l'intérêt...
Non, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans l'intervention de monsieur Richard par rapport à pourquoi les Canadiens, eux, ne viennent pas ici.
Pourquoi ne pas créer des emplois pour aider des cerveaux valides être actifs ici?
Bon, ce qu'on remarque, puisque ici nous sommes dans une organisation de l'ONU, c'est que déjà dans les chiffres de l'ONU, on se rend compte que les transferts des diasporas à l'étranger dépassent maintenant l'aide internationale des pays que reçoivent les pays en voie de développement. Donc là, on parle de particuliers qui émigrent et qui envoient de l'argent dans leur pays. Statistique Canada a établi que dès la première année de leur arrivée, les personnes qui arrivent au Canada renvoient dans leur pays d'origine en moyenne autour de 1 300 $ canadiens. Ça, c'est de l'argent qui arrive directement entre des mains qui dépensent, et c'est de l'argent donc qui est investi dans l'économie concrètement, dans l'économie quotidienne. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que chaque personne qui part devient finalement un ambassadeur du Congo. Quand vous parlez, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de Rimouski, c'est vrai qu'il y a une université très connue là-bas. Au Canada, bon, quand on parle du Congo, déjà, la distinction entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa, etc., c'est pas forcément des choses innées dans la culture locale. Je pense que chaque personne qui part devient un ambassadeur du pays. Et souvent, les immigrants, la plupart du temps, le Canada bénéficie de cette richesse parce que les immigrants, en arrivant au Canada, eux, ils sont capables de voir qu'est-ce qui est une opportunité d'affaires au Congo. Et qu'est-ce qui est une opportunité d'affaires au Canada? Parce qu'ils arrivent avec des yeux différents des Canadiens.
Tout à fait.
Par exemple, un Congolais qui arrive et qui se rend compte qu'il y a telle sorte de bois ici qui peut être exploité là-bas ou vice-versa, va le voir plus qu'un Canadien qui n'a aucune ou très peu de connaissances par rapport au marché de chaque pays. C'est pas unique au Congo, mais c'est la même chose partout. Si vous prenez le Maroc, vous avez énormément d'échanges maintenant qui se font entre le Maroc et le Canada. Vous avez par exemple la Royal Air Maroc qui a un vol par jour au Canada parce que bon, nous sommes aussi installés là-bas depuis une quinzaine d'années maintenant, et la communauté marocaine s'est énormément développée. Et actuellement, la diaspora à l'extérieur pour les Marocains représente, en termes d'entrée de devises au pays, 10% du PIB. Donc les Marocains à l'étranger alimentent de façon concrète l'économie du Maroc à travers leurs vacances, à travers les envois qu'ils font à leur famille, à travers des résidences qu'ils achètent pour leur retraite, à travers des affaires qu'ils créent. Donc ça, c'est une façon, à mon avis, de compter sur les Congolais pour développer le Congo. Et non d'attendre, par exemple, que des Canadiens viennent investir. Parce que quand vous parlez d'un pays étranger, finalement, on va dire les étrangers qui ont des moyens pour investir, on peut dire qu'ils sont sollicités par de nombreux pays. Donc, c'est pas se mettre dans une position de force que d'attendre que eux agissent. Moi, je pense qu'envoyer des nationaux à l'extérieur, c'est peut-être la meilleure source de développement qui peut être offerte. Et c'est aussi la plus concrète parce que elle se base sur une multiplicité.
Oui, mais quel est l'intérêt que vous tirez de cette opération? Parce que là, c'est une préoccupation de Boniface.
Alors je pense qu'on a répondu à Monsieur Richard. Et vous savez, pour la traite des, la fuite des cerveaux, le Canada a le même problème avec les États-Unis. Parce qu'on dit aux États-Unis, bon, les firmes payent plus, etc. Et c'est vrai, puisque c'est des multinationales beaucoup plus consistantes.
Mais voilà pourquoi les Canadiens avaient compensé.
Ben, c'est maintenant, en ayant fait le choix de la mondialisation, je pense que la planète devient une espèce de vase communicant d'une région à l'autre. Mais tant qu'il y a des personnes à former, il n'y a pas pénurie. Parce que aujourd'hui, avec Internet et avec tout ce qui va avec, si vous avez vraiment un cerveau qui veut partir, il va le faire avec notre firme, avec le Canada ou pas.
Et quelles sont les garanties que, disons, Access Canada donne aux Congolais pour qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas là d'une arnaque, par exemple?
Bon, premièrement, une personne qui veut faire une recherche sur Internet va voir qu'Access Canada est autorisé en matière de représentation de par son affiliation à la SCCI, qui est la Société canadienne des consultants en immigration. Leur site web, c'est www.scci-csic.ca, parce que c'est en français et en anglais, évidemment. Et là, vous allez voir que sous le numéro M041-696, vous trouverez Alain Guerrero, donc c'est moi-même, qui est autorisé. Cet organisme-là a été créé par le gouvernement fédéral, donc le gouvernement central du Canada, pour créer un registre des personnes habilitées à représenter. Donc nous sommes des personnes formées, nous devons respecter un code d'éthique, un code de déontologie, des règles pour les honoraires, etc. Donc la même chose qu'une profession libérale encadrée. Ensuite, donc les personnes peuvent faire cette recherche. À travers la recherche, vous allez voir aussi qu'Access Canada, à travers les années, a déposé par exemple un mémoire à l'Assemblée nationale du Québec que nous avons présenté, qui était un mémoire très dur, parce que nous, à cette époque-là, c'était en 2004, nous avions constaté, parce que nous avons des bureaux en Europe, la disparité des délais entre le Maghreb et d'autres régions du monde. Donc on voyait que les délais étaient inégaux. Nous avions présenté ça en commission parlementaire. Nous avons même fait la première page de journaux canadiens, parce que nous avions défendu les communautés francophones qui recherchaient des francophones mais qui étaient hors Québec. Et à un moment donné, dans certaines ambassades, on disait...
Est-ce qu'on peut oser dire qu'il s'agit là... toute cette opération, c'est dans le cadre de la coopération Canada-RDC?
Non, ce n'est pas basé sur une coopération particulière. Nous sommes une firme privée. Nous avons... Nous nous rendons compte que le Québec a des besoins énormes en matière de personnes, de main-d'œuvre. D'ici 2012, par exemple, le Québec doit remplacer 700 000 emplois de personnes qui partent à la retraite. Donc il y a 500 000 qui doivent être remplacés et 200 000 qui viennent de la croissance économique. Bon, les 200 000, on va dire peut-être que c'est remis en cause relativement à cause de la crise économique qui sévit actuellement à travers le monde. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Ce chiffre de 500 000 personnes qu'il faut remplacer au niveau des départs à la retraite, c'est énorme. Quand vous parlez d'une population, le Québec, c'est seulement 7,7 millions d'habitants. Vous avez 4 200 000 personnes actives et vous devez en remplacer 500 000. Dans les 3 prochaines années, c'est phénoménal. C'est des chiffres qui sont énormes.
Mais pourquoi vous excluez les étudiants et les touristes?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est parce qu'en matière de droit, en matière de loi, lorsque vous avez affaire à un visa de nature temporaire, donc les touristes, les étudiants et les travailleurs ont des visas temporaires, c'est-à-dire qu'ils ont le devoir de quitter le territoire à la fin du visa qui leur a été donné. Alors, le visa temporaire, quand vous faites une demande de ce type, l'agent qui vous reçoit, donc on appelle ça un agent d'immigration, l'agent qui vous reçoit, s'il n'a pas la conviction que la personne va quitter le territoire à la fin de son séjour, va refuser le dossier sans avoir de justificatif à donner. Donc c'est une décision en droit que nous appelons discrétionnaire.
Tout à fait.
Tandis que lorsque nous parlons de résidence permanente, la décision n'est pas discrétionnaire parce qu'elle se base sur des critères objectifs et précis. Donc un agent qui refuserait quelqu'un qui rentre dans les critères, ou que l'agent pense que la personne ne rentre pas dans les critères, doit motiver sa décision de façon précise, et cette décision peut être contestée en révision ou devant les tribunaux. Donc on a une voie légale et on peut s'appuyer sur des critères qui sont logiques. Tandis que quand vous avez affaire à une décision discrétionnaire, vous pouvez bâtir le meilleur dossier du monde. Si l'individu n'arrive pas à convaincre l'agent de visa lors de sa demande qu'il va vraiment quitter le territoire à la fin, la demande est refusée puis on ne peut rien faire. Donc on ne veut pas s'occuper, nous, finalement, de procédures qu'on considère quand même un peu aléatoires. Nous, on se base, quand on engage un client sur une procédure qui est longue, on ne veut pas lui bloquer un an et demi, deux ans de sa vie avec un résultat négatif à la fin. Donc,
Et l'étude de profil de candidat, ça prend combien de temps à peu près?
Nous la faisons en 3 jours. En 3 jours, nous étudions le profil du candidat par rapport à toutes les catégories applicables, tant pour la loi du Québec que pour la loi du Canada. Nous lui donnons tous les conseils pour améliorer son dossier. Et c'est un rapport qui fait quand même une 40aine de pages, qui est rédigé, qui est signé, qui est personnalisé. Et si c'est positif, à ce moment-là, le candidat peut s'engager en toute confiance.
Après 3 jours, le candidat verse combien?
Alors, à cette étape-là...
Pour la consultation, maintenant, si je n'ai pas appelé ça, c'est une consultation, parce que tous ces conseils, ça constitue quand même une consultation.
Oui, ces conseils constituent une consultation. Donc, ces conseils arrivent une fois qu'on se rend compte. La première étape, lorsqu'un client se présente au bureau, on lui pose quelques questions et on voit s'il rentre dans les critères de la loi. S'il ne rentre pas, on lui dit « Désolé, monsieur, ça sert à rien de
placer ça ici, ouais. Et puis bon. »
C'est-à-dire que pour les lois actuelles, son profil ne correspond pas, donc il ne faut pas qu'il dépense ni énergie ni argent, qu'il se concentre sur autre chose.
Alain Guéraud, et les démarches peuvent durer combien de temps?
Bon, une procédure d'immigration dure assez longtemps. On parle maintenant pour l'Afrique centrale entre 18 et 24 mois. C'est un délai qui peut paraître élevé pour certains. Toutefois, dans certaines régions du monde, par exemple pour l'Inde, pour la Chine ou bien pour certaines régions en Europe de l'Est, ça peut aller jusqu'à 5 ans pour une démarche d'immigration.
Oui, mais vous êtes déjà installé dans plusieurs pays. Ici en Afrique, par exemple, on a vu au Sénégal, où il y a beaucoup de gens, vous êtes installé là-bas. Mais j'aimerais savoir, vous avez déjà fait voyager combien de personnes?
Bon, nous sommes à peu près au-dessus de 17 000 maintenant, visa émis par l'intermédiaire de notre firme. Donc c'est un chiffre qui est quand même conséquent, mais qui en même temps s'est bâti avec le temps, parce que nous ouvrons les bureaux progressivement. Nous étudions aussi les critères finalement de potentiel, puisqu'il faut voir aussi si la demande va se maintenir au niveau du Québec et du Canada. Donc nous avançons de façon prudente.
Mais jusqu'à oui, parce que vous avez des assignations à atteindre quand même. Et à un certain moment, vous allez vous dire, bon, ok, on a atteint le nombre, comme le gouvernement fédéral vous l'a demandé, le Parlement fédéral vous a demandé.
Voilà, donc il y a un objectif quand même annuel qui est au-dessus de 250 000 personnes.
Oui, mais vous êtes une firme privée, vous avez dit. Le gouvernement canadien, un jour, il n'y aura pas de problème, comme l'a dit mon confrère J.R., il n'y aura pas de problème un jour où le gouvernement canadien va décider de renvoyer tous ces Congolais ou toutes ces personnes qui viennent à travers votre firme.
Ça non, on ne peut pas renvoyer quelqu'un au niveau canadien. Une fois que quelqu'un arrive sur place et qu'il a rempli les critères, il va être résident permanent, et après 3 ans de résidence continue, il va obtenir le passeport canadien. Donc, le Canada a une politique inclusive pour les immigrants.
Oui, mais lorsque la personne arrive au Canada, qu'est-ce que Access Canada fait ? Vous prenez la personne en charge, vous le logez, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'aidez à s'installer ?
Non, nous, notre étape d'assistance, c'est premièrement de regarder si le candidat se qualifie. Mm-hmm. S'il se qualifie, on lui fait faire sa procédure, s'il le désire, par notre intermédiaire. Ensuite de ça, au début de sa procédure, on essaye de voir où est-ce que le candidat désire s'établir. Bon, le Canada est un très vaste pays, il y a des communautés francophones à travers le pays continent, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, on essaye de voir où est-ce que le candidat serait heureux d'après son style de vie. Et est-ce que c'est un célibataire, un cadre super ambitieux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une famille, qui veut une vie tranquille, etc. Donc, on essaye de le diriger. Une fois qu'on le dirige, on lui donne des contacts avec les organismes locaux qui s'occupent de l'assistance des immigrants. Mmh. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'habitude, bon, c'est 250 000 à 300 000 immigrants par année. Mais par exemple, l'année dernière, il y a eu plus de 510 000 admission au Canada.
Oui.
Maintenant, donc ces chiffres importants font en sorte qu'il y a des infrastructures d'accueil.
Oui, mais beaucoup de Congolais aiment vivre à l'étranger. Beaucoup sont dans des pays. La communauté congolaise est très forte à l'étranger. Vous n'avez pas peur d'être débordé ici au Congo ? Nous, on vous dit déjà que vous serez débordé.
Bon, on a vécu déjà ce style de demande assez forte quand même en Côte d'Ivoire, par exemple, ou même au Maroc. Hein, les Marocains aussi sont très très voyageurs, si on peut dire. Mais je pense que lorsque les critères de sélection sont connus, les gens réfléchissent. Non, je ne pense pas que nous serons débordés. C'est une question de...
D'organisation et...
Voilà, c'est une question
d'expertise que vous avez déjà. Donc, ça fait 13 ans quand même d'avoir une forte expertise. Hein.
Voilà, ça fait plus de 14 ans maintenant.
Ouais. Voilà, alors, nous avons encore en ligne deux autres auditeurs qui aimeraient également intervenir parce qu'ils ont quand même des intérêts autour de ce sujet. Jean-Paul, vous nous appelez de Kinshasa, donc à partir de l'ISTA. Jean-Paul, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Alors, quelle est votre préoccupation par rapport à ce sujet ?
Bon, ma première préoccupation, c'était d'abord sur les résidences ici. Donc, depuis qu'on a commencé l'entretien, ils n'ont pas montré leur place ici. Et deuxièmement, c'est si la personne est déjà là, j'ai bien suivi qu'il demandait quelques sommes pour vivre les trois premiers mois. Alors, est-ce que l'accès, je ne sais pas si c'est l'accès Canada, et ils ont le garantie pour la personne là de lui donner le travail direct, mais c'est à la personne de chercher son boulot lui-même.
Bon, peut-être vous avez pris le cours, Monsieur Alain a dit, ils engagent la procédure d'immigration à partir d'ici, donc d'abord pour vous qualifier et puis vous donner quelques conseils. Oui. Après que vous soyez parti, donc ce n'est plus leur problème, donc c'est les gouvernements canadiens. Bon, peut-être vous êtes une main d'œuvre qui pourrait être utilisée d'une manière ou d'une autre à partir de là. Donc le problème, c'est que à leur niveau, ils vous fournissent et des conseils, et ils vous aident à vous engager dans une immigration régulière, donc pour que vous obteniez un visa d'établissement, donc une résidence permanente. Je ne sais pas, peut-être si M. Alain pourrait ajouter quelque chose.
Oui, c'est ça. En gros, une personne qui arrive sur les territoires va avoir les mêmes devoirs et obligations qu'un Canadien, dont celle de trouver son travail. Il y a des cas où les emplois sont offerts à distance, mais c'est un domaine dans lequel nous n'œuvrons pas. C'est un domaine un peu délicat et les employeurs canadiens ne sont pas habitués à recruter à distance en général.
Alors Jean-Paul, vous avez encore d'autres préoccupations ?
Oui, est-ce que vous pouvez nous donner les montants de ces montants globaux, par exemple, estimés de la vie de là pendant 3 mois ou bien...
Alors je vais vous donner quelques chiffres. Bon, premièrement, nous sommes galerie du centenaire. Donc sur le boulevard du 30 juin à côté de l'ambassade de Belgique au deuxième étage. Bon, pour les chiffres, en passant au bureau, vous pourrez avoir une étude, disons, plus appliquée à votre situation. Parce que ça varie si vous êtes par exemple célibataire, marié, si vous avez des enfants, etc. Pour ce qui est de la somme que vous devez détenir à votre arrivée. Pour le Québec, par exemple, on va dire que pour un célibataire en dollars américains, le gouvernement du Québec évalue à peu près à autour de 2 000 $ américains les 3 premiers mois de subsistance que vous aurez à assumer. Donc, par exemple, ces 3 mois de subsistance-là font en sorte que, normalement, à votre arrivée, vous n'avez pas le droit de demander une aide gouvernementale durant ces 3 mois-là. Après ça, si vous n'avez pas trouvé de travail, malgré qu'un conseiller va vous assister, à ce moment-là, le gouvernement aide au même titre qu'un Canadien ou un Québécois qui ne travaille pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand un immigrant arrive, il est recruté en fonction de critères, donc diplôme, etc. Donc normalement, il doit pouvoir se trouver un emploi. Lorsqu'une personne arrive, elle est aussi encadrée par un conseiller en emploi qui va la suivre, qui va essayer de comprendre pourquoi, par exemple, quelqu'un n'a pas trouvé de travail après un mois, puisque normalement, après un mois, une personne devrait avoir trouvé un emploi. Et le conseiller va s'asseoir avec vous, par exemple, et va vous dire, bon, je pense, par exemple, que votre diplôme ne correspond pas aux normes canadiennes, il va falloir vous recycler. Donc là, le gouvernement peut vous aider pendant que vous faites des études, ou bien il va vous dire, votre approche pour faire les recherches n'est pas adéquate, ou bien il va vous dire aussi, peut-être une question de personnalité, essayer d'adapter telle chose ou telle chose, ou bien peut-être c'est la région aussi, par exemple, si vous travaillez dans les mines et que vous allez dans un endroit où il n'y a pas forcément ce type d'activité, ça sera pas favorable pour vous. Donc il y a des conseillers, parce que vous avez un pays avec une infrastructure d'accueil qui veut que les immigrants réussissent, et donc vous avez les ressources pour ce faire.
Ben voilà, alors Jean-Paul, êtes-vous satisfait de la réponse?
Oui, vous avez bien satisfait. Peut-être que c'est mal une petite question là. Donc, maintenant, si la personne veut faire venir sa famille, s'il part seul, il doit aussi attendre autre démarche comme il a fait pour lui.
Disons, je pense que si vous avez une famille, si vous avez, vous n'êtes pas célibataire, donc vous allez faire une démarche une fois pour toutes. Mais si vous êtes célibataire et que vous voulez appeler votre famille, je ne sais pas, monsieur Alain, il y a encore possibilité à partir du Canada que quelqu'un puisse entreprendre encore d'autres démarches pour d'autres personnes.
Mais il n'y a pas moyen, je peux compléter JR, il n'y a pas moyen que la personne qui est mariée et qui a des enfants parte avec sa famille ensemble?
Voilà, c'est une très bonne question et je comprends très bien ce que veut dire Monsieur Jean-Paul. C'est que souvent les frais de subsistance et les frais gouvernementaux de traitement que prend le gouvernement canadien et québécois font en sorte que des fois il y a des personnes qui n'ont pas la somme totale pour partir en famille et qui préfèrent déjà partir seul, trouver du travail et après faire la procédure pour faire venir la famille. Donc c'est une question qui nous est posée très fréquemment. Donc la première des choses, au niveau canadien en général, quand quelqu'un émigre, il émigre avec ses personnes à charge. Donc son conjoint, que ce soit un mariage ou un conjoint de fait, depuis au moins un an, et les enfants qui ont moins de 22 ans.
Oui,
donc ça fait partie de ce qu'on appelle la cellule familiale qui est apte à émigrer. Maintenant, une personne, par exemple, si l'homme est le demandeur principal, parce que lorsque nous qualifions l'individu, nous regardons aussi son conjoint. Par exemple, je ne sais pas, mettons une jeune femme universitaire qui est mariée avec quelqu'un qui est médecin, donc a une bonne profession pour le mari, mais si le mari, par exemple, a 50 ans et que la femme a 35 ans, peut-être que le dossier de l'épouse va être meilleur et que le médecin va être personne à charge. Souvent, ça fait sourire, mais... Non, le dossier se bâtit sur l'épouse, par exemple, mais elle va rentrer avec son mari et ses enfants automatiquement dans la procédure.
Ah, voilà.
Ce n'est pas comme dans certains pays du Golfe, par exemple, où on fait rentrer seulement le travailleur et on laisse la famille à l'extérieur. Mm-hmm. C'est pas du tout la politique du Canada.
Alors, nous avons Gaylor qui nous appelle de Lubumbashi. Gaylor, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, Gaylor, vous avez des préoccupations par rapport à cette firme canadienne?
Oui, ma préoccupation est la suivante. C'est de savoir quels sont les avantages que le Canada accorde une fois qu'on arrive au Canada. Est-ce qu'il y a-t-il des avantages financiers, de sécurité? Est-ce qu'il peut permettre à ces immigrants de trouver seulement un boulot et de protéger sa sécurité? On est bien tenté, mais on a peur parce qu'il y a beaucoup d'exploits. Une fois que vous arrivez là-bas, vous subissez une forme quelconque d'esclavage. Ça, il me préoccupe.
Ben voilà, donc on pourra encore faire cet exercice de revenir sur ce que vous avez déjà dit pour apaiser peut-être l'esprit de Gaylor Lubumbashi qui a peur quand même, qui a une crainte tout autour de cette opération.
Et il a peur parce qu'il y a eu beaucoup d'escrocs, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus comme vous, qui ont installé leur bureau, des gens sérieux qu'on a reçus.
Et qui n'ont pas fait long feu.
Et voilà quoi.
Bon, je pense qu'au niveau de la crédibilité, je pense qu'il faut renvoyer les personnes à leur recherche et se rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus n'importe qui peut travailler en matière d'immigration. Il y a des organismes qui réglementent ça de façon très serrée. Nous sommes une société familiale. Moi, je suis formé en droit. Je suis membre de la SCCI, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. Les deux autres personnes, donc c'est mon frère qui est notaire de formation. Et la troisième personne, c'est ma sœur qui est avocate. Donc, nous sommes entourés par maintenant une équipe de 112 personnes. Donc, au niveau de la crédibilité... disons que la firme est solide et reconnue maintenant à tous les niveaux, si on peut dire, sans
exception. Il n'y a rien à prouver.
Voilà, exactement. Donc pour nous, faire accepter quelqu'un, c'est une formalité. Si la personne rentre dans les critères, on peut l'aider. Si elle ne rentre pas dans les critères, il n'y a rien à faire.
On laisse tomber. Alors Zeno Mbandaka. Zeno, vous nous appelez de Mbandaka. Bonjour Zeno.
Bonjour, je vais porter, je ne sais pas Zeno, mais c'est Raymond. Hein?
Ah Raymond, pardon, Raymond. Bonjour Raymond.
Ok, bonjour. Bon, alors ma préoccupation, c'est quand vous avez posé la question sur le montant à payer pour la consultation.
Voilà.
Il n'a pas donné la réponse parce que quand il voulait répondre, nous l'a interrogé à une autre question. Mm-hmm. Donc je voulais avoir ce montant-là de deux. Je voulais aussi demander à monsieur Alain, est-ce que l'idée-là n'est pas, ça va s'arrêter au niveau de Kinshasa ou bien ça peut se poser à l'intérieur du pays?
Voilà, donc ça c'est un grand problème parce que ceux qui sont dans les provinces pourraient peut-être avoir un intérêt sur cette opération. Comment ils vont faire? Est-ce que vous... Je reviens sur ma question sur les intermédiaires. D'abord, la consultation.
Alors, juste www.accescanadadirect.com, tout attaché, avec un accès, donc avec un ordinateur et un accès à Internet, vous êtes 7 jours sur 7 en possibilité de contacter l'un de nos conseillers. Et donc, vous pouvez poser toutes les questions et vous avez des personnes qui sont là pour vous répondre. C'est 7 jours sur 7 et c'est fiable, c'est vraiment Accès Canada. Vous pouvez rentrer sur notre site web directement, qui est aussi www.accescanada.com. Et là, vous avez un lien vers notre ce qu'on appelle notre bureau virtuel. Donc, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, vous avez toujours la possibilité de contacter, de faire votre procédure complètement à distance. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, pour ce qui est des frais, là, je vais parler des frais qui sont reliés à notre firme. Alors, pour un célibataire, l'étude préliminaire, une fois qu'on a regardé le dossier général pour voir si le candidat a des chances de se qualifier, les frais sont de $150 pour un célibataire et de $200 pour un couple. Donc à partir de là, c'est là que nous faisons l'étude et que nous remettons le rapport par écrit. Après ça, si le candidat se qualifie, nous avons des honoraires qui incluent finalement tous les services jusqu'à la remise du visa final par le gouvernement canadien. Mm-hmm. Et ces frais-là commencent pour un célibataire avec, parce qu'on a une promotion maintenant pour l'ouverture, ça commence autour de $1,800 américains. C'est payable en 24 paiements.
Payable en 24?
24 paiements, puisque la procédure dure entre 18 et 24 mois.
Oui, mais...
Et pour les mariés?
Alors, pour les mariés, il y a ces $600 de plus pour les mariés. Et nous garantissons le remboursement des honoraires en cas de refus. Donc, les honoraires sont garantis par notre firme. Nous avons un contrat qui est établi avec le candidat. Si nous avons remis un rapport positif et que le candidat est refusé par les autorités canadiennes, à ce moment-là, nous lui remboursons les honoraires qu'il nous a versés en totalité.
Oui, mais lorsque la personne remplit toutes les conditions, cette personne devra se présenter au niveau de l'ambassade ou c'est vous qui le faites à la place de cette personne?
Non, la personne devra se présenter une fois au niveau de l'ambassade, éventuellement, s'il y a une entrevue de sélection. Donc l'entrevue de sélection a lieu maintenant pour le fédéral, on va dire pour ce qu'on appelle le fédéral, c'est pour si une demande est adressée directement vers le gouvernement canadien au lieu du gouvernement du Québec. Donc là, dans 10% des cas, 15% des cas, il y a une entrevue de sélection qui se fait. Sinon, le dossier est étudié sur papier et accepté sur papier.
Oui, mais est-ce qu'il y a des examens médicaux comme ça se passe à l'ambassade des États-Unis? Puisqu'on sait qu'il y a certaines maladies qui ne permettent pas aux émigrants de quitter le pays puisqu'ils ont peut-être une telle maladie et le gouvernement refusera de prendre en charge cette personne.
Alors, si on explique brièvement le processus d'immigration. Donc vous avez la qualification que l'on fait au début, qui est une espèce de présélection. Une fois qu'un dossier officiel est déposé, il faut attendre 9 à 12 mois s'il y a une entrevue de sélection. Donc ça, c'est la première étape, c'est de passer l'entrevue de sélection. Quand un candidat passe l'entrevue de sélection ou bien reçoit ses visites médicales directement s'il n'y a pas d'entrevue, à ce moment-là, la personne... elle sait qu'elle est acceptée, entre guillemets, au niveau réglementaire.
Oui, mais s'il y a des maladies...
Voilà,
peuvent...
maintenant, une fois qu'une personne est acceptée au niveau réglementaire, au niveau des critères de sélection, il reste deux étapes que le gouvernement canadien a la responsabilité d'appliquer. C'est premièrement l'aspect médical, donc on vérifie si la personne ne va pas représenter un risque de contagion pour le Canada, ou bien si elle n'a pas une maladie qui va, finalement, on appelle ça la notion de fardeau excessif, donc dont les soins vont coûter très cher au Canada. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une dialyse tous les deux jours, va être une charge financière pour le pays, donc il sera refusé en vertu de ça. Maintenant, il y a d'autres maladies, comme par exemple, là il y a beaucoup de critères.
Le sida.
Bon, le sida n'est pas forcément une personne séropositive, ce n'est pas un motif d'exclusion. Il y a des analyses qui doivent se faire pour connaître le nombre d'anticorps, etc., au niveau des examens sanguins.
Mais c'est quelqu'un qui va aller contaminer les gens là, sur place.
Bon, il a été décidé par le gouvernement canadien que ce n'est pas quelque chose qui est de nature à exclure la personne. Mm-hmm. Une personne séropositive peut immigrer. C'est une décision qui est politique, qui ne vient pas de nous. Mm-hmm. Donc, nous, on ne fait qu'appliquer les critères. Maintenant, la même chose, par exemple, pour les cancers. Vous avez des cancers où la rémission nécessaire est de 5 ans pour être admissible. Vous en avez d'autres où c'est moins. Évidemment, il y a tout un tas de facteurs au niveau des... Parce que le cancer, c'est un nom, mais tellement de maladies, si on peut dire. Et après ça, donc, une fois que l'aspect médical est passé, le gouvernement canadien vérifie aussi l'aspect sécurité. Donc le gouvernement canadien prend le temps de vérifier que l'individu n'a pas d'antécédents judiciaires, mais aussi qu'il n'a pas, disons que rien n'indique qu'il puisse faire partie d'une organisation criminelle ou terroriste, parce que ça, maintenant, vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, ça devient une préoccupation majeure, surtout avec nos voisins américains.
Alors, quels sont vos rapports avec d'autres services d'immigration, parce que vous êtes, c'est vrai, un privé. Nous avons un service d'immigration en RDC. Quels sont vos rapports?
Alors, vous n'avez pas ce qu'on appelle le service d'immigration relié à la résidence permanente en RDC. La RDC est traitée par... Parce que le gouvernement canadien, à travers l'Afrique, a un bureau à Abidjan, qui traite en général l'Afrique de l'Ouest. Vous avez un bureau à Accra, qui traite les pays anglophones, on va dire, d'Afrique. Et vous avez le Kenya aussi, qui est un petit peu mixte. Et le Congo RDC dépend de ce centre du Kenya. Au niveau de la RDC, ici, ce que vous avez, c'est des demandes de visas conventionnels, donc des visas de type temporaire. Les centres d'immigration ne sont pas... Il n'y a pas de centre d'immigration comme tel en RDC.
Alors donc vous serez prêt à faire face à une concurrence, par exemple, quand d'autres centres d'immigration pourraient voir le jour?
Oui, ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, à travers notre existence, nous avons eu de multiples concurrents. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeant envers mon équipe et envers moi-même pour le service à la clientèle. Nous avons une procédure qui est extrêmement transparente. Par exemple, si vous avez non seulement ce que je disais tout à l'heure, un bureau virtuel où les personnes peuvent poser des questions sur leur dossier en tout temps. Vous avez aussi, on a un système intranet qui fait en sorte que les gens peuvent avoir leur suivi en ligne. Ils peuvent savoir, par exemple, à chaque fois qu'il y a des commentaires qui sont mis dans un dossier, c'est en ligne, la personne y a accès en tout temps. Vous avez aussi nous avons un système qui fait en sorte que, aussitôt que le statut d'un dossier, par exemple, si nous recevons les visites médicales et que nous changeons le statut du dossier, le client reçoit automatiquement un email dans sa boîte courrier pour l'avertir que ces visites médicales ont été reçues à Montréal, etc.
Est-ce qu'il peut arriver comme ça que le gouvernement canadien accepte quelqu'un avant même le temps échu?
Ah oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'entrevue de sélection, la personne va recevoir une acceptation très rapidement. Par exemple, au Cameroun, récemment, qui est donc dans le bassin de l'Afrique centrale, il y a des personnes qui ont déposé leur dossier au mois de juillet, qui ont reçu des acceptations sans entrevue au mois de décembre.
Ah bon?
Donc là, oui, là ça réduit considérablement les délais.
Alain Guerrero, on sait que la corruption se porte très bien dans notre pays. On doit se le dire. On sait aussi que dans certaines ambassades, il y a des agents qui se qualifient, qui pratiquent la corruption. Est-ce que vos agents seront à l'abri de cette gangrène?
C'est-à-dire notre personnel?
Votre personnel.
Le personnel commis à cette opération.
Parce qu'on sait que dans plusieurs ambassades, il y a des gens qui donnent de l'argent pour avoir des visas.
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau canadien, quelqu'un qui fait une demande d'immigration, pour expliquer les choses clairement, c'est comme s'il rentrait dans une queue leu-leu. Il n'y a pas d'avantage en payant qui que ce soit plus cher. Le Canada est très... très à cheval sur cette façon de procéder.
Oui, ça va pas se passer au niveau du Canada, mais au niveau de Access Congo.
Voilà, mais en même temps, c'est un avis que je lance à la population, qu'il faut pas s'attendre, que ce soit par le biais
donc
de cadeaux,
pas d'intermédiaires,
Je précise aussi que tous les clients qui nous payent des honoraires doivent le faire directement à la banque. Hein. Il n'y a aucune somme d'argent pour les demandes officielles qui circulent en espèces dans nos bureaux. C'est vraiment, les personnes doivent aller déposer dans un compte qui est au nom de la société, et venir simplement avec leur bordereau de dépôt.
Est-ce que vous êtes déjà opérationnel?
Oui, nous sommes opérationnels depuis lundi soir pour l'ouverture.
Et vous avez reçu jusque-là combien de Congolais?
Nous avons eu, ça fait maintenant 48 heures, on va dire, effectives, autour de 300 personnes sont venues prendre de l'information, oui.
Et je sais que la semaine prochaine, ça sera encore avec une vitesse de croisière. Il y aura beaucoup de gens qui vont s'en citer. Mais nous avons en ligne Michel de Kinshasa. C'est vrai que nous avons reçu beaucoup de coups de fil, mais on ne peut pas tout passer. Ce n'est pas une émission à téléphone ouvert, donc c'est-à-dire ce n'est pas une émission parole aux auditeurs que vous allez peut-être vivre dans la nouvelle couleur de Radio Capi dans les jours à venir. Michel qui est avec nous. Michel, vous nous appelez de Kinshasa?
Oui, oui. Déjà, vous devez être content. Ça dit que le sujet est très passionnant si vous avez autant de coups de fil.
Voilà, alors donc, allez-y, Michel.
J'ai deux questions, une question à deux volets. J'ai entendu, parce que j'ai pris l'émission de cours, je m'excuse, la durée et quand Accès Canada Direct dit que le dossier est acceptable, la durée d'obtention, je crois entendre que le monsieur a dit que c'est des 18 à 24 mois maximum, c'est ça, hein?
Oui, 18 à 24 mois, oui.
Donc, ça veut dire que cette question est exclue, parce qu'il avait déjà répondu. Des deux, je veux savoir quel impact positif cela peut avoir pour le Congo.
Ben voilà, alors monsieur Alain,
voilà, pour le Congo, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous allez envoyer à travers l'immigration, comme vous l'avez déjà fait dans de nombreux pays, une diaspora qui va devenir finalement des ambassadeurs. Chaque personne devient un ambassadeur du Congo, fera connaître le Congo à l'étranger, et les échanges commerciaux et les échanges aussi de transfert de fonds ne peuvent qu'en bénéficier finalement. Donc moi je dis toujours, l'immigration c'est un système gagnant-gagnant, puisque le Canada et le Québec ont besoin de personnes pour augmenter la démographie et l'économie du pays, et en même temps, ça rend service au pays donc dont les personnes font le choix de s'établir ailleurs, puisque on se rend compte que ces transferts de fonds par les nationaux vers leur pays d'origine dépassent l'aide internationale faite par les pays industrialisés envers les pays en développement. Donc c'est quelque chose, maintenant c'est quelque chose qui est reconnu, et c'est quelque chose qu'il faut utiliser dans ce bassin mondial voilà, que devient la planète.
Voilà, okay. Merci beaucoup.
Merci Michel d'avoir appelé. Hein.
D'accord.
Alors nous allons clore, on va mettre fin quand même à cet entretien. Alain Guerrero, vous êtes le président Access Canada. Nous disons que Access Canada a son siège au niveau de la galerie du Centenaire, au deuxième niveau, et vous offrez des services d'immigration à toute personne qui désire donc aller ou s'émigrer au Canada. Et là, vous insistez sur la résidence permanente. Donc, les étudiants, c'est exclu, les touristes et les travailleurs, donc ça, c'est exclu. Et les Congolais doivent faire attention, il n'y aura pas d'intermédiaire.
Voilà, pas d'intermédiaire. Et je rappelle aussi une chose, ne jamais envoyer d'argent à quelqu'un que vous n'avez pas vu. Et surtout, être très sceptique par rapport aux gens qui vous disent ce que vous voulez entendre. L'immigration, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des critères. Il faut être sceptique et ne pas se laisser avoir, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui profitent de la naïveté, mais la naïveté vient souvent du fait que la personne doit être plus avoir un esprit critique sur ce qui lui est dit et prendre le temps de vérifier, parce qu'avec Internet aujourd'hui, les vérifications peuvent aller assez loin depuis un simple poste connecté.
Oui, voilà. Mais est-ce que vous pouvez rappeler votre site pour nos auditeurs, surtout de l'intérieur, qui vous ont suivi, qui ont peut-être envie d'émigrer aussi pour le Canada?
Voilà, vous avez énormément d'informations sur notre site web régulier, qui est www.accescanada.com. accescanada.com, tout attaché. Et donc à partir de ce site, vous pouvez entrer sur notre bureau virtuel, mais si vous voulez vous connecter directement à notre bureau virtuel, vous pouvez le faire par le www.accescanadadirect.com, tout attaché toujours.
Alain Guerrero, nous rappelons que vous êtes le président de Access Canada. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci d'avoir honoré cette émission au Capi Action.
Merci à vous de m'avoir reçu et au revoir à tout le monde.